Bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais vous transmettre à chacun d'entre vous, en guise de vœux, un message qui est à la fois plein d'espérance, mais aussi un avertissement. Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles. On va commencer par la lecture de la parole de Dieu. Ce que je vais dire n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, je vous invite à prendre l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24. Matthieu chapitre 24, qui est le cinquième et dernier grand discours de Jésus dans l'Évangile de Matthieu, qu'on appelle aussi le discours sur la fin des temps. Et on va lire jusqu'au verset 14. Matthieu chapitre 24, verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, « Voyez-vous tout cela ? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en privé lui dire, « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Voilà, jusqu'ici donc la lecture de la parole de Dieu. Et j'aimerais donc ce matin aborder avec vous le thème du retour de Jésus-Christ, qui est l'une des prophéties peut-être les plus importantes de la Bible, la plus importante peut-être après, bien sûr, la venue, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, puisqu'on estime qu'il y a 1527 textes de l'Ancien Testament qui parlent du retour de Jésus-Christ et 319 dans le Nouveau Testament. Je tiens cette information de René Pache, qui doit le tenir peut-être d'autres personnes. Ce n'est pas facile à faire ce genre de statistiques, parce que dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'immédiat, qu'est-ce qui est de l'ordre de différé ? Mais en tout cas, il y a énormément de textes qui parlent du retour de Jésus-Christ. Ce n'est donc pas une doctrine anecdotique. Et pourtant, on en parle rarement dans nos églises. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit sur ce retour de Jésus-Christ ? Eh bien, dans ce verset de Hébreux, chapitre 9, qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, il nous est dit que Jésus-Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc Jésus est venu une première fois comme humble serviteur, on l'a dit tout à l'heure, pour expier le péché de l'humanité, pour pardonner les péchés de ceux qui se confient en lui. Et nous savons que Jésus reviendra, puisque c'est le futur, il n'est pas encore là, il reviendra une deuxième fois, cette fois-ci en gloire, pour établir son règne. Mais la question qu'on peut se poser ce matin, est-ce qu'on est prêt pour son retour ? Est-ce que toi, tu es prêt pour son retour ce matin ? Et on va regarder un petit peu ce que nous dit la parole de Dieu. Donc ce que je vous propose comme plan, on va voir l'importance du sujet, j'ai déjà insisté là-dessus. Ensuite, on verra quelques caractéristiques du retour. Il est certain que lorsqu'on a 1500 et quelques textes dans l'Ancien Testament, on ne pourra pas couvrir toutes les prophéties, vous imaginez, en une prédication. Ça nécessiterait plusieurs séances. Mais on va voir quelques éléments essentiels. J'ai essayé d'être synthétique. Ensuite, Je vais m'attacher aujourd'hui, je crois que c'est le cœur du message, à souligner un élément important de ce retour. Et puis, on verra en guise de conclusion, comment faire pour être prêt ou se préparer, peut-être un peu mieux. Alors, certains sont peut-être prêts, d'autres le sont moins. En tous les cas, comment faire pour mieux se préparer, et on verra une application pratique. Alors, caractéristiques de ce retour, parler du retour de Jésus-Christ en détail, comme je vous l'ai dit, ça dépasserait le cadre de notre exhortation. Donc si vous avez des questions à l'issue de ça, vous pouvez en parler aux anciens. Peut-être que ce sera un thème qu'il faudra développer en plusieurs séances, peu importe. Et je vais insister surtout sur l'importance de ce retour. Pourquoi ce retour est important ? Parce qu'on vit une vie difficile. La vie chrétienne, la vie en général, vous le savez, elle est difficile. Et la Bible nous dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et Jésus d'ailleurs l'a confirmé en disant à ses disciples, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc si Jésus a été persécuté et que je suis fidèle à Jésus-Christ, eh bien je vais être persécuté d'une manière ou d'une autre. Ce n'est peut-être pas une persécution physique, comme dans les pays musulmans, mais ça peut être une persécution morale, parce que je prends une position au travail et que ma foi peut me coûter cher dans mon travail. Et vous avez plein d'autres exemples. Chacun a vécu d'une manière ou d'une autre des persécutions. Et cette promesse du retour, elle est associée au rétablissement de toutes choses. Et pour moi, je pense que c'est une formidable espérance. Vous voyez, Jésus, quand il parle à ses disciples, il leur dit « Redressez-vous et relevez votre tête parce que votre délivrance approche. » Le retour de Jésus pour celui qui croit en lui, qui a placé sa confiance en lui, c'est vraiment une espérance, c'est une source de joie, c'est une source d'espérance pour le futur. Et d'ailleurs, Paul, lorsqu'il parle aux Thessaloniciens, lorsqu'il leur explique qu'est-ce qui va se passer au retour de Jésus-Christ, il le parle aussi dans un contexte de deuil, il leur dit « Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. » Donc ce matin, on doit se consoler les uns les autres parce que Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Jésus revient bientôt. Mais, pour ceux qui n'ont pas placé encore leur confiance en Jésus, eh bien ce retour sera un temps de jugement. Ça sera un temps terrible pour les méchants, pour les injustes. Et la justice sera rendue. Vous savez, dans les Béatitudes, il est dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce qu'ils seront rassasiés. Et ils seront rassasiés lorsque Jésus reviendra, il rendra toute justice. » Donc c'est un thème qui est important parce qu'il est chargé d'espérance. En ce début d'année, peut-être pour certains d'entre vous, l'avenir est sombre, c'est difficile, les nuages s'amoncellent. Eh bien, j'ai envie de vous donner cette espérance, Jésus revient bientôt. Qu'en est-il de la promesse ? Il y a de nombreux textes qui parlent de ça. J'en ai choisi deux. D'abord, ce partage de Jésus dans la chambre haute où il dit à ses disciples « Je m'en vais, certes, mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ça veut dire que tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus peuvent s'approprier cette promesse. Il y a aussi cette promesse dans Acte 10, lorsque Jésus monte au ciel, l'ascension, les disciples sont là à regarder au ciel et deux hommes, donc deux anges, leur apparaissent et leur disent « Ce que vous venez de voir, il est monté au ciel, et bien il reviendra exactement de la même manière. » Il y a de nombreux autres textes dans l'Apocalypse, Apocalypse 1-7, je n'insiste pas là-dessus, mais pour ceux qui prennent des notes, Apocalypse 1-7, c'est pareil, nous parle du retour de Jésus. Alors, quand est-ce que Jésus va revenir ? La date, on ne la connaît pas. On peut faire toutes les spéculations, vous pouvez lire tous les livres prophétiques que vous voulez. Jésus l'a dit lui-même, pour ce qui est du jour et l'heure, personne ne les connaît. Donc, ne cherchons pas à savoir, ne cherchons pas à spéculer en fonction des événements. On verra tout à l'heure, il y a des signes annonciateurs. Jésus nous dit, vous ne pourrez pas le savoir, mais il faut que vous puissiez être prêts le jour où je reviendrai. Alors, quels sont les signes ? Alors, il y a un certain nombre de signes avant-coureurs. Jésus en parle à ses disciples. Il y a plein de signes qui sont non spécifiques. Alors, bien sûr, il y aura l'apostasie. L'apostasie finale, c'est quoi? L'apparition de faux Christ, de faux prophètes. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Il y a plein de gens qui vont abandonner la foi, qui vont se décourager. Les gens qui ont peu de racines, dans la parabole du semeur, ils abandonnent la foi parce que c'est trop dur, il y a des séductions, etc. Donc il y aura beaucoup de séductions, l'erreur, le mensonge. On est dans une société de mensonges aujourd'hui. Et puis, il y aura un accroissement de l'injustice et un refroidissement de l'amour. Nous l'avons lu tout à l'heure. Donc ça, c'est les signes de l'apostasie finale. Mais c'est des signes qui ne sont pas spécifiques. Quand on regarde l'histoire de l'humanité depuis la venue de Jésus, les 20 siècles, il y a eu des tas de périodes où on a vécu ce qu'on vit aujourd'hui. Et puis, il y aura des guerres, Jésus dit, il y aura des pestes. On en a eu il n'y a pas longtemps, Covid, d'accord ? Mais il y a eu des pestes aussi au Moyen-Âge qui ont tué la tiers de l'Europe. Donc, vous voyez, c'est des signes non spécifiques. Des famines, des tremblements de terre, on en voit tous les jours, les nouvelles circulent vite, donc on se dit, tiens, il y a plus de tremblements de terre maintenant qu'avant, mais ce n'est peut-être pas le cas, peut-être que c'est juste l'information qui est plus disponible. Il y aura des persécutions, mais ça, les persécutions, ça ne date pas d'aujourd'hui, sous l'Empire romain, les chrétiens étaient persécutés. Il y a deux signes, néanmoins, qui doivent attirer notre attention. Le premier signe, c'est la diffusion universelle de l'Évangile. Depuis que la mission Wycliffe existe, vous savez, ils ont traduit la Bible dans un grand nombre de langues, des portions de Bible, il y a une diffusion très importante, l'Évangile est prêché quasiment jusqu'aux extrémités de la terre parce que les moyens de communication se sont améliorés. Et puis, il y a un deuxième signe, je n'aurai pas le temps de l'aborder, mais ça vaudrait peut-être le coup de le détailler, c'est la dispersion et le retour d'Israël. Quand je dis dispersion, c'est que c'est vrai qu'Israël a été exilé, il est revenu de Babylone. Mais ce n'est pas la même chose, il a été dispersé dans un, enfin, exilé dans un pays et est revenu. Aujourd'hui, après 70, après Jésus-Christ, donc les Romains ont détruit le temple, ils ont chassé les Juifs se sont dispersés dans le monde entier, et il y a des Juifs dans tous les pays. Ça a été recensé, il y a des gens qui ont fait l'étude, même dans les peuplades les plus reculées, il y a des Juifs dans tous les pays. Et donc Israël a bien été dispersé. Et en 1948, un miracle s'est produit. Il y a eu la fondation et la restauration de l'État d'Israël qui dure encore aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, il y a des Israéliens, des Juifs qui rentrent dans leur pays. Donc ça, c'est un signe qui est annonciateur. C'est pour ça qu'il faut nous tenir prêts. Je ne vais pas détailler plus, mais si vous souhaitez en savoir plus, venez me voir et on pourra en discuter. Alors, de quelle manière est-ce que Jésus va revenir? Alors, ça, c'est l'épître aux Thessaloniciens qui nous donne un bel aperçu. Le Seigneur a un signal donné, on ne sait pas lequel, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, il va descendre du ciel. Donc, Jésus va venir sur les nuées. Et qu'est-ce qui va se passer? Tous ceux qui sont morts, qui appartenaient à Jésus-Christ, ce jour-là vont ressusciter. Ça représente des millions de personnes. Je ne sais pas comment ça va se passer matériellement, mais c'est ce que nous dit la Bible. Et nous, les vivants, si Jésus revient et qu'on est vivant, là, si Jésus revient dans 30 secondes, là, tous ceux qui lui appartiennent vont monter sur les nuées à la rencontre du Seigneur et nous serons pour toujours avec Jésus. On ne le quittera jamais. Et c'est pour ça que Paul insiste en disant « Consolez-vous par ces paroles. Consolez-vous parce que si vous souffrez aujourd'hui, si la vie est dure, eh bien Jésus revient et nous irons à sa rencontre. » Et j'aimerais maintenant souligner, mettre le focus sur un élément particulier du retour de Jésus. Et pour cela, on va prendre nos Bibles et on va lire deux textes. Deux textes qui se suivent, c'est dans l'Évangile de Luc, ce sont deux textes qui sont adjacents, qui sont uniques dans la Bible, puisqu'il n'y a que Luc qui en parle, et on va essayer de détailler cela. Donc on va prendre Luc chapitre 17 et à partir du verset 20 qui commence par une question des pharisiens. Un petit peu la même que les disciples d'ailleurs. Interrogé par les pharisiens, donc Luc 17, verset 20. Interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit. Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là, car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous, ou au milieu de vous, selon les versions. Puis il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas et n'y courez pas. En effet, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Il en sera comme au temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, que celui qui sera sur sa terrasse et qui aura ses affaires dans la maison ne descende pas pour les prendre, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'autre sera pris, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où sera-ce, Seigneur ?» Il répondit, « Où sera le corps ? Ils là s'assembleront les aigles. » Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de mon adversaire. » Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour, et tarderait-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais... quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Alors, comme nous avons vu dans Matthieu 24, eh bien, Jésus va répondre à une question des pharisiens, « Quand viendra le royaume de Dieu ?» Donc, vous voyez, les gens même de l'époque étaient préoccupés pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu. Mais les pharisiens, ils ne voyaient pas Jésus comme un roi. Donc, s'ils ne le voyaient pas comme roi, à quoi bon attendre un royaume, finalement ? Et donc, Jésus va très rapidement éluder la question. Je ne vais pas commenter ce texte, parce qu'il n'est pas dans notre sujet. Et il va s'adresser, vous voyez, au verset 22, il va s'adresser aux disciples. C'est plus important pour lui. Les pharisiens, de toute façon, ne voudront pas le reconnaître. Et il va leur communiquer à ses disciples un enseignement important. Alors, comme d'habitude, Jésus nous habitue à ça. Il ne répond jamais directement à une question. Quand viendra le royaume de Dieu ? Il va plutôt répondre sur le comment. Comment viendra le royaume de Dieu ? Oui, le royaume de Dieu va venir, c'est ce que dit Jésus. Mais ce royaume va venir soudainement. Il va venir sans avertir. Il va venir de manière totalement surprenante, où tout le monde va être surpris. Et là, Luc, inspiré par le Saint-Esprit, va juxtaposer deux illustrations qui vont nous servir pour illustrer notre sujet du jour. Le premier élément, c'est qu'il va faire référence à deux générations passées, la génération de Sodome et la génération de Noé, qui sont peut-être les deux générations les plus corrompues, les plus perverties de l'histoire de l'humanité. Et il va placer juste derrière cette parabole du juge unique, qui est propre à Luc. On ne le trouve que dans l'évangile de Luc. Alors qu'est-ce que le Saint-Esprit cherche à nous communiquer au travers de cette juxtaposition ? Ce qui est étonnant aussi, c'est que Jésus ne va pas condamner l'état de perversion de la génération de Noé ou de la génération de Sodome. Il va insister non pas sur cet état de dépravation, mais surtout sur leur état d'impréparation, sur le fait que ces générations-là, elles ont été averties du danger. La génération de Noé, ils ont vu pendant 100 ans, c'est pas rien 100 ans, qui a 100 ans ici? Personne? Vous avez 100 ans les enfants? Non? Toi, tu as 100 ans? 100 ans, vous vous rendez compte? Pendant 100 ans, Noé a construit dans la campagne, quelque part, un bateau, et les gens passaient et se moquaient de lui. Ah, tu construis un bateau, mais la mer est à 300 km. Pendant 100 ans. Et Noé a été un témoin, parce qu'il expliquait pourquoi il construisait. Il disait, Dieu va envoyer un déluge, je construis un bateau. Et les gens se moquaient. La génération de Noé a été avertie pendant 100 ans, et ils n'ont pas cru. Mais le jour où la porte a été fermée, c'était terminé. La génération de Sodome, c'est pareil. Lot prévient ses gendres. Dieu va détruire la ville et les gendres, qu'est-ce qu'ils disent? Mais tu rigoles, Dieu ne va jamais détruire la ville. À leurs yeux, nous dit la Bible, il parut plaisanter. Donc, ces deux générations ont été averties, mais elles n'ont pas prêté attention. Et le drame, voyez-vous, de ces deux générations, comme ça sera d'ailleurs le drame de la dernière génération, celle qui verra le retour de Jésus, c'est peut-être la nôtre. Le drame, c'est que malgré les avertissements, il y a des gens qui refusent de se repentir. Vous voyez, je vous parle du retour de Jésus aujourd'hui. Et il y a des gens peut-être qui ne croiront pas. J'espère pas, mais peut-être dans cette salle, il y a des gens qui ne croiront pas. Et c'est ça le drame. Malgré les avertissements, les gens refusent de se repentir. Les gens refusent de croire les dangers. Et pourtant, la Bible nous avertit. Elle nous avertit maintes et maintes fois lorsque Dieu dit « revenez à moi, revenez à moi ». Dieu avertit sans arrêt. Et ce n'est pas tant donc l'état de corruption qui compte, ce n'est pas tant la gravité du péché que l'état d'impréparation et de l'incrédulité. Pardon, c'est l'incrédulité qui est le pire des péchés. Quand Jésus dira à propos du Saint-Esprit, « le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement ». Et il continue en disant « de péché parce qu'il ne croit pas en moi ». Vous voyez, le péché, c'est pas, si c'est quand même, faire des choses abominables, contraires à la parole de Dieu. Mais le vrai péché aux yeux de Jésus, c'est de ne pas croire en lui. Parce que de toute façon, on est tous pécheurs. On est tous condamnés et il n'y a que le salut en Jésus-Christ qui sauve. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, sans arrêt, on continuera à pécher jusqu'à ce que Jésus reviendra. Jusqu'à ce que Jésus revienne, pardon. On continuera à pécher. Donc le péché, c'est de ne pas croire en Jésus. Le vrai péché, c'est de ne pas écouter les avertissements. C'est cet état d'impréparation de la génération de Noé et de la génération de Sodome. Et le grand danger, vous voyez, qui guette l'Église aujourd'hui, c'est de ne pas anticiper. C'est de ne pas se préparer. Ailleurs, il est dit, hein, c'est Jésus qui le dit, l'apôtre Paul le dira, Pierre le dira, que le Seigneur viendra comme un voleur. Donc, ce n'est pas la peine de savoir si Jésus va revenir dans 6 mois, dans 1 an, de dire, oh, maintenant, le troisième temple n'est pas construit, la vache rousse n'est pas encore en place. Ça ne sert à rien de spéculer. Il y a des tas de livres maintenant qui essayent de calculer, de dire, c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est dans 6 mois. Ça ne sert à rien. Le Seigneur viendra comme un voleur. Personne ne connaît le jour. Comme un voleur dans la nuit. Et vous savez, les cambrioleurs, quand ils viennent dans la nuit, ils s'arrangent pour prendre 1 heure où tout le monde est endormi. Hein. Ils ne vont pas venir à 11h du soir quand vous avez fini votre film Netflix, parce que là, ça ne marchera pas. Ils savent qu'il faut venir beaucoup plus tard. Et Paul le dira aux Thessaloniciens. Il le dira, vous savez bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement. Pour ceux qui ont connu des grossesses, ça ne prévient pas. Et pourquoi cette dernière génération se laissera-t-elle surprendre? Pourquoi est-ce qu'on peut, nous, si nous sommes la dernière génération, pourquoi est-ce qu'on pourrait se laisser surprendre? Eh bien, je crois parce que dans les temps de la fin, il y aura une épreuve qui sera très difficile à surmonter, qui a été difficile pour les deux générations, qui sera difficile pour la dernière génération, c'est l'épreuve de l'attente. L'attente qui dure. Déjà, les disciples, en leur temps, pensaient que Jésus allait revenir rapidement. Mais depuis, il y a des dizaines de générations de disciples qui nous ont précédés et qui ont parlé du retour du Seigneur. Et Jésus n'était toujours pas revenu. Et aujourd'hui, ce 4 janvier 2026, eh bien, le Seigneur n'est toujours pas là. Alors cette épreuve qui dure, dans cette attente qui ne finit pas, on finit par oublier, nous, que Jésus revient. Et puis les soucis de la vie prennent le pas. Et puis finalement, on n'est pas si mal sur cette terre. Au fond, réfléchissons bien. On est pas mal, nous, dans nos pays occidentaux. On a tout ce qu'il faut, on a des frigos pleins, on a des maisons, des appartements, on a une belle salle de culte qui est chauffée. On est pas mal, on n'est pas pressé que le Seigneur revienne. On ne pense même plus au retour du Seigneur, d'ailleurs. On n'en parle plus. Et pourtant, c'est écrit, Jésus l'a dit, « Voici, je viens bientôt. » Et puis on ne lit plus trop la Bible non plus. Enfin, on ne la lit plus de manière systématique. On va lire quelques versets, quelques passages favoris. Parce que la Bible, c'est un peu compliqué. Et puis bon, je n'ai pas beaucoup de temps non plus. Hein. Pff, les réseaux sociaux, machin, j'ai quand même des notifications. Il faut que je réponde et tout. Beaucoup de chrétiens vont se détourner de cette espérance. Parce qu'ils vont être préoccupés par les affaires de la vie. Un petit peu comme Marthe, finalement. Hein. Jésus était là et Marthe était affairée, nous dit. Elle était préoccupée. C'est tout, c'est juste. Hein. Elle faisait rien de mal, Marthe. Elle préparait des choses. Elle travaillait. Il n'y a rien de mal à ça. C'est juste une question de perspective, de timing. Est-ce qu'on est prêt à entendre Jésus revenir ? Et ce thème du retard de la venue du Messie se retrouve dans de nombreuses paraboles de Jésus. Je n'ai pas le temps de les citer, mais pour ceux qui prennent des notes, il y a la parabole du bon et du mauvais serviteur. Hein, on la trouve en Luc 13, 45 ou en Matthieu 24, 48. Hein, c'est bon et c'est mauvais serviteur. Qu'est-ce qu'il dit le mauvais serviteur ? Il dit « Mon maître tarde à venir. » Ah, j'ai le temps. Il tarde à venir. J'ai le temps. Il se met à battre ses serviteurs. Mon maître tarde à venir. Puis vous connaissez la parabole des 10 vierges. D'accord ? Ces 10 vierges qui attendent, qui sont toutes excitées pour la venue du maître. Puis finalement, ça dure tellement longtemps que toutes finissent par s'endormir. Il y a des folles, des sages, d'accord ? Mais toutes, elles s'endorment. Même les plus sages. Même les disciples qui aimaient Jésus, ils s'endorment à Gethsémané. Donc, à un moment donné, ça dure tellement... C'est tellement difficile qu'on finit par s'endormir. Et dans la parabole des 10 vierges, on a cette phrase, « Comme l'époux tardait. » Vous voyez, mon maître tarde à venir, le mauvais serviteur, comme l'époux tardait. Et puis, il y a aussi la parabole des talents, vous savez. Le maître qui distribue les talents, et puis il s'en va. Et après, la Bible nous dit, longtemps après, le maître revient. Et demande des comptes sur les talents. Donc cette durée, cette longueur de l'attente, c'est une constante biblique. Alors on peut se demander, mais pourquoi ? Pourquoi ce retard au retour du Messie ? Pourquoi cette attente qui dure ? Pourquoi est-ce que le Seigneur permet que le juste souffre injustement sous la main du méchant ? Parce que c'est la réalité. Pourquoi est-ce qu'il permet qu'on souffre ici-bas ? On regarde autour de nous, le mal s'accroît, le mensonge s'accroît. Pourquoi est-ce que le Seigneur permet ça ? Je suis un peu en retard là. Dans l'Apocalypse, on a ce passage au chapitre 6. On voit ces âmes qui ont été égorgées, nous dit la Bible, à cause de la parole et du témoignage. Tous les martyrs qui sont là sous le trône et qui crient « Jusque à quand, Maître Saint et Véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» On n'est pas les seuls. Peut-être vous ne souffrez pas beaucoup, mais il y a des gens qui souffrent en Iran, dans les pays musulmans, en Corée du Nord. Il y a des gens qui souffrent pour leur foi, qui sont soit égorgés, comme ces martyrs de l'Apocalypse, soit qui sont persécutés, qui perdent leur travail, qui perdent leur famille, et qui auraient envie de crier « Jusque à quand, Seigneur ?» Alors, Seigneur, pourquoi est-ce que tu tardes ? Pourquoi est-ce que tu attends comme ça ? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es un Dieu injuste? L'apôtre Pierre nous en donne une explication. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc Dieu patiente, dans son grand amour, il veut qu'un maximum de personnes soient sauvées. Mais il viendra un jour où la patience de Dieu va atteindre sa limite. Il y aura un jour de rupture où Dieu dira « stop » et là, il vaudra mieux être prêt. Mais en attendant, comme rien ne se passe, le méchant, qu'est-ce qu'il se dit ? Ah, Dieu, il n'agit pas. Dieu est comme ce juge inique de la parabole. Il ne fait rien, alors profitons-en. Ah, peut-être que Dieu est faible, peut-être qu'il ne peut pas, il n'a pas assez de puissance. Alors le mal grandit autour de nous et le mal devient insupportable. Mais en réalité, vous le savez bien, la Bible nous dit que Dieu tient des comptes dans le ciel. La Bible nous dit que Dieu recueille même chacune de nos larmes dans son outre. Ça, c'est un psaume qui nous le dit. Et il nous dit aussi qu'un jour, des livres seront ouverts. Et les hommes devront rendre compte, ça c'est Jésus qui parle, les hommes devront rendre compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Ça c'est la promesse. Mais en attendant, les méchants prospèrent. Les méchants oppriment les justes. Les justes souffrent dans la main des méchants. Ils souffrent injustement. Et c'est ça la situation de cette veuve. Cette veuve souffre injustement. Elle a une partie adverse qui l'opprime, elle fait référence à un juge qui est censé être impartial, qui doit lui rendre justice, et rien ne se passe. Et la veuve, elle souffre. Et c'est là qu'on comprend mieux pourquoi Luc a placé cette parabole du juge inique, juste après les paroles de Jésus sur son retour. La pauvre veuve, bah c'est un peu nous. C'est nous qui souffrons l'injustice. C'est nous qui n'avons aucune solution à vue humaine. Alors bien sûr, la Bible parle des temps merveilleux après le retour de Jésus, mais où est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas? Où est la promesse de son avènement, nous dit l'apôtre Pierre. Ce silence de Dieu qui pourrait parfois être pris soit comme une faiblesse de sa part, soit pire encore, comme l'attitude d'un Dieu qui serait injuste. Est-ce que Dieu serait injuste? Et ça, c'est l'interrogation légitime de plein de personnes qui nous ont précédés. Regardez ce que dit Jérémie quand il voit la destruction de Jérusalem, l'envahissement par les Chaldéens. Il se pose la question, « Seigneur, est-ce que tu serais comme moi, pour moi comme une source trompeuse? Est-ce que tu es comme une eau dont on n'est pas sûr ?» Vous connaissez aussi la prière d'Asaph dans le psaume 73, qui voit les méchants prospérer, qui se dit, « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais ?» Et là, Dieu l'aide. Il lui éclaire les yeux, il l'amène à réfléchir, il l'amène à pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. Et c'est ça qui est important. C'est de savoir rentrer dans les sanctuaires de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rentrer dans son intimité. Samy l'a dit tout à l'heure dans sa prière, hein, sous forme de vœux. Rentrer dans l'intimité toujours plus grande de Dieu pour comprendre tous ces textes, comprendre ce qui se passe, comprendre pourquoi Dieu tarde, pourquoi Dieu ne vient pas. Le peuple de Dieu, dont nous faisons partie, attend avec impatience la venue du Messie, dont on sait qu'il sera un juste juge. Mais voilà l'époux tarde, où dans le cas de cette pauvre veuve, le juge ne répond pas. Et la tentation est grande au quotidien de se dire, Dieu il fait rien, il est faible. De tout abandonner, de dire, puisque la source n'est pas fiable, allons à d'autres sources. Et là, on a l'ennemi de nos âmes, on a le diable qui est là, qui va nous susurrer des tas de choses, hein, qui va nous susurrer des plans B. Ah oui, tu as raison, Dieu, on ne peut pas compter sur lui. De toute façon, il tarde, puis de toute façon, tu as le temps, ce n'est pas la peine de te préparer. Mais voyez, la pauvre veuve, qu'est-ce qu'elle fait? Elle insiste, elle persévère, et elle nous montre par là la bonne attitude à avoir dans le retour du Messie. Et la bonne attitude, c'est vraiment persévérer. Il faut persévérer envers et contre tout. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu le dit. Cette veuve, malgré l'attitude déroutante du juge, c'est vrai que ce juge devrait rendre justice, mais il a une attitude déroutante. Elle persévère, elle s'obstine. Et ça nous rappelle un peu l'attitude déroutante de la femme cananéenne. Souvenez-vous, cette femme cananéenne qui s'approche de Jésus, qui est prête à recevoir des miettes, et Jésus fait mine de la garder à distance, de la mépriser en quelque sorte. Parce qu'il sait, que cette veuve est persévérante, elle sait ce qu'elle veut, elle sait à quoi elle a droit, et elle va forcer l'admiration de Jésus. Voyez, la persévérance que nous pouvons avoir ce matin pourra forcer l'admiration de Jésus peut-être. Un jour il nous dira, tu as été persévérant. Tu as failli abandonner, mais tu as été persévérant. Parce que quand les temps seront venus, les choses vont s'accélérer d'une manière extraordinaire. Vous voyez, dans l'Apocalypse, il est dit « Oui, je viens bientôt ». Le « oui », c'est le mot grec pour « oui », c'est vraiment un terme de certitude. « Certainement, je viens bientôt ». Et le « bientôt », en fait, c'est plutôt « je viens vite ». C'est-à-dire, si on voulait traduire correctement, on dirait « certainement, je viens vite ». Il n'est pas là, mais le jour où ça va s'accélérer, il viendra. Et la parabole du juge unique, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit que on lui fera promptement justice. C'est-à-dire que Dieu agira rapidement, il ne tardera pas. Mais cette parabole conclut en disant « lorsque le Fils de l'homme reviendra sur cette terre, trouvera-t-il la foi ?» Alors, je ne crois pas qu'ici, ce n'est pas la foi dans le sacrifice expiatoire de Jésus dont il est parlé, c'est plutôt la foi dans son retour. Et la fin de la parabole du juge unique, elle se termine en disant, lorsque Jésus reviendra, finalement, est-ce qu'il y aura des gens qui seront prêts à l'attendre ? Est-ce que nous, on sera prêts à l'attendre ? Est-ce que toi, tu seras prêt à l'attendre ? La foi dans ce retour de Jésus, comme un peu ce serviteur prudent et avisé, qui veille nuit et jour. Je vous ai parlé du mauvais serviteur, c'est la parabole du bon et du mauvais serviteur. Le mauvais serviteur, il dit « mon maître tarde ». Le bon serviteur, il est prudent et avisé, il veille nuit et jour. Et est-ce que c'est notre cas ? Vous voyez, il y a deux possibilités. Soit je dis « Seigneur, viens bientôt », la conclusion quasiment de la Bible. Soit je suis dans la catégorie de droite, est-ce que j'aurai la foi dans son retour encore ? Est-ce que j'y croirai ? Ben j'espère qu'on est tous du côté du vert. Si on ne l'est pas, il n'y a qu'une seule solution, c'est se préparer et veiller. Alors comment est-ce qu'on peut bien se préparer ? Je pourrais vous donner des tas d'oukases, vous citer des tas de versets sur tout ce qu'il faut faire. Et là, vous essayeriez par vos propres forces. Alors, vous feriez ça pendant une semaine, deux semaines. Et puis, au bout d'un moment, c'est trop difficile. Parce que vivre la vie chrétienne par ses propres forces, c'est difficile. Alors, comment se préparer ? Il y a deux solutions. Si aujourd'hui, tu n'es pas disciple de Jésus-Christ, si tu n'as pas donné ton cœur à Jésus, si tu ne lui as pas confessé tes péchés, si tu ne t'es pas repenti, eh bien, aujourd'hui, c'est le temps. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Parce que demain, ça sera peut-être trop tard. Ne sois pas comme la génération de Noé ou de Lot. Ne sois pas comme les vierges folles. Ne sois pas comme ce mauvais serviteur qui dit « j'ai le temps ». C'est maintenant. Jésus se tient à la porte et il frappe dans ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-lui la porte ce matin. Et si tu es un disciple de Jésus-Christ, eh bien tu seras confronté forcément à l'épreuve de l'attente et de la persévérance. Alors si Jésus n'est pas revenu dans une demi-heure, s'il n'est pas revenu mardi, ne me blâmez pas. D'accord ? Ce n'est pas de ma faute. Continuez à vous tenir prêt. Vous savez maintenant pourquoi le Seigneur tarde. Vous savez qu'il faut patienter, que l'attente est dure. Ne soyez pas comme les moqueurs de 2 Pierre, hein, 2 Pierre 3, verset 4, qui disent « Il viendra un jour des moqueurs, où est la promesse de son avènement ?» Mais plutôt, soyez comme les gens dont Pierre parle au verset 14 de la deuxième épître, au chapitre 3. « C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. » Voilà, veillez sur soi, veillez sur son âme, veillez sur sa relation avec le Seigneur. Est-ce que j'ai quelque chose qui me sépare de Dieu? Est-ce que j'ai un conflit qui n'est pas résolu? Est-ce que j'ai un péché qui n'est pas confessé? Revenir à Dieu, je vous renvoie au message sur la repentance que j'avais fait au mois de novembre. Se tenir prêt. Soyons comme la veuve de cette parabole. Insistons, tenons-nous devant le Seigneur. Seigneur, aide-moi à patienter. Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Aide-moi à détecter tout péché caché pour que je puisse revenir vers toi, que je puisse me repentir, qu'aucune ombre ne me sépare de toi. Attendre de manière persévérante. Deuxième élément pour bien se préparer, discerner les séductions qui vont nous éloigner de Dieu. Donc là, je vous renvoie aux deux messages que j'avais faits sur comment Satan s'y prend pour nous détourner de notre vocation d'enfant de Dieu. Vous les trouverez sur le site. Je ne vais pas insister là-dessus parce qu'il y a tout un développement. Et Luc nous dit qu'il faut veiller, rester en tenue de travail, garder vos lampes allumées. C'est veiller. Et puis, la discipline de la parole de Dieu, mettre en place une discipline de la parole de Dieu. J'y reviendrai parce qu'on va vous proposer quelque chose de concret avec les anciens. Je vais vous donner le quatrième, c'est la redevabilité. C'est se rendre des comptes mutuels. C'est s'exhorter réciproquement, comme il est dit dans Hébreux 10, 25. La discipline de la parole de Dieu, pour moi, c'est vraiment, après presque 40 ans de vie chrétienne, c'est vraiment ce qu'il y a le plus important. Parce que la parole est une épée, et il n'y a que la parole qui va pouvoir trancher en moi, qui va pouvoir aller chercher tout ce qui ne va pas. Parce que, comme je vous ai dit, si vous essayez de vous sanctifier, d'être mieux, d'être parfait, de plaire à Dieu par vos propres forces, vous n'y arriverez pas. Moi, j'y suis pas arrivé. Si vous avez la recette, je veux bien, je suis preneur. Mais si vous prenez la décision de lire la parole de Dieu, c'est elle qui va provoquer la transformation nécessaire. Alors, on aimerait vous proposer avec les anciens, en ce début d'année, de faire une lecture biblique collective à partir d'un exemplaire de la parole de Dieu, vous voyez ici, là, qui a été publié il y a une dizaine d'années, et qui a des caractéristiques toutes particulières. Alors, est-ce que tu peux cliquer, Louis, il y a un lien hypertexte, normalement. Tu peux cliquer, il y a une petite vidéo de 2 minutes qui va présenter un petit peu cette Bible. Et après, je vous dirai ce qu'on peut faire ensemble en tant qu'Église. Clique dessus, normalement, il y a un lien. Sinon, ça ne fait rien, je vous l'expliquerai comme ça. Ça part, ça charge. Ça charge ou pas? C'est une version, en fait, c'est une version Bible du Semeur 2015, d'accord, qui a la particularité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça fait rien pendant qu'il fait. Qui a la particularité d'avoir le texte biblique brut. Il n'y a pas de verset, il n'y a pas de chapitre. Il n'y a pas de tête de chapitre. Vous lisez ça comme un roman, d'accord ? Ça donne une autre lecture de la parole de Dieu. Et l'idée, c'est qu'on puisse lire ça sur un rythme raisonnable et de se revoir régulièrement, pour ceux qui le souhaitent, se revoir régulièrement pour échanger sur ce qu'on a lu. Alors, on vous donnera quelques questions qui accompagnent la lecture, que vous pourrez poser au texte. C'est ce qu'on appelle la lecture inductive de la Bible. Qui est-ce qui pratique la lecture inductive de la Bible ici? Oui? une ou deux personnes. La lecture inductive, c'est je lis la Bible, mais je vais poser des questions au texte. Et vous allez voir que le Saint-Esprit, c'est comme ça qu'il peut nous éclairer. Alors, sinon, ça ne fait rien. On n'a pas le temps parce que c'est déjà tard. Sinon, j'ai accès au PowerPoint, là, parce que j'ai des... Ah, il faut mettre à jour le navigateur. Non, ça ne marche pas. Alors, ça fait un... tu me renvoies le PowerPoint. Alors, c'est un texte, donc, brut, d'accord. On va faire, donc, une étude inductive. Il y aura un plan de lecture quotidien. Et puis, on se revoit par Zoom régulièrement, pour ceux qui veulent. On vous demandera de vous inscrire. On vous enverra dans la newsletter un lien vers un Google Forms. Donc, pour ceux qui veulent, donc il y aura l'achat de la Bible, mais c'est quelques euros. Et puis, je pense que l'Église participera peut-être un petit peu. Mais c'est quelques euros. C'est une version du Nouveau Testament. Et on va lire le Nouveau Testament sur un trimestre à peu près. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de pouvoir se revoir, de s'encourager mutuellement. De se dire, tiens, je vais lire, mais je ne suis plus tout seul à lire, j'ai quelqu'un d'autre qui lit à côté de moi. D'accord ? Et du coup, il y aura des partages sur ce que vous avez vécu, ce que vous avez compris du texte, en quoi le texte vous a parlé. C'est ça, en fait, l'étude inductive. C'est que dit le texte, hein, qu'est-ce que ça veut dire, et puis comment je peux l'appliquer. Vous voyez, c'est vraiment des choses concrètes. C'est, je prends la Bible et j'en fais quelque chose au quotidien. Pas juste un livre religieux que je lis de temps en temps ou que je lis pour venir au culte, etc. Voilà. Donc on vous proposera ça et c'est pour nous encourager réciproquement, pour nous aider à nous tenir prêts. Et vous allez voir que la parole de Dieu, c'est vraiment une épée, quoi. Quand la Bible nous dit que c'est une épée à deux tranchants, c'est la réalité. Elle pointe là où il ne faut pas, elle met à nu les sentiments et les pensées du cœur, nous dit l'Épître aux Hébreux. Voilà, avec des réunions régulières, et je crois que j'ai terminé. Voilà, donc Jésus revient bientôt, et c'est ça qu'il faut retenir ce matin, mais est-ce que je suis prêt ? D'accord ? Est-ce que je veille ? Est-ce que je garde sa parole ? Et dans cette attente, trouvez-vous, efforcez-vous d'être trouvé dans la paix, veillant, et fidèle. On va prier.